Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa seconde et dernière émission du mois de mars. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Edith.
Bonsoir.
C'est un petit peu, pour ne rien vous cacher, la même équipe que à la dernière émission.
Non, mais on est complètement différents, là.
C'est ça, c'est ça. On n'a pas les mêmes idées tout d'un coup, donc voilà. Donc, une heure pour discuter des droits humains, des actualités des droits humains, de nos combats pour les droits humains, etc., etc., comme depuis bien longtemps sur l'antenne de Principe Actif. N'hésitez pas à réécouter nos podcasts. Donc, pour commencer l'émission ce soir, bah, une information. Aujourd'hui est paru, alors bon, c'était trop court pour qu'on puisse vous en parler en détail, parce que l'apparition a été aujourd'hui, mais le rapport annuel et mondial d'Amnesty International, qui est répertorie, on vous le rappelle, tous les ans, l'état des droits humains dans plus de 150 pays dans le monde. Donc voilà, c'est un gros travail qui est publié tous les ans, et le rapport vient de paraître. Donc, j'ai regardé très rapidement les grands titres, mais j'ai pas eu l'occasion ni le temps de creuser un peu les différents chapitres. On vous en reparlera dans toutes les prochaines émissions. Mais ça m'a quand même donné l'idée, effectivement, de vous rappeler qu'il faut être très motivé, vigilant, conscient, etc. par rapport aux droits humains. Parce qu'on est toujours sur une pente, entre guillemets, dangereuse. On ne veut pas du tout alerter les gens dramatiquement. Mais c'est vrai que la tendance générale, y compris dans des pays comme les pays européens et la France, la tendance est de remettre en cause un certain nombre de droits sous une forme ou sous une autre. Voilà. On va longuement vous parler aujourd'hui du droit de manifester en France, qui est de plus en plus mal mené. Parce que l'actualité, effectivement, fait qu'on parle très souvent à l'heure actuelle du droit de manifester en France. Et on va vous en parler sur les différentes remises en cause qui sont liées à ce droit de manifester. Voilà. Et pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, il faut rester très militant, très vigilant. Il faut s'informer, c'est la première chose. Et pas se contenter de ce qui est dit dans les médias principaux, parce que c'est pas complet, c'est pas, entre guillemets, objectif. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais voilà. En tout cas, c'est pas complet, c'est souvent orienté.
Donc, ça fait du buzz.
Voilà.
Ça fait de l'image.
C'est souvent répété. Il y a les mêmes arguments de répéter, mais le fond, il faut aller le chercher.
C'est ça. Donc, sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, par exemple, et sur d'autres sites et d'autres sources d'informations, il ne faut pas hésiter. Mais surtout, il faut rester vigilant, parce que les droits humains, ben, effectivement, ils sont mis à mal depuis pas mal d'années. Le climat reste assez répressif et
intense,
assez mauvais.
Intense.
Voilà, c'est intense. Donc, et si, encore une fois, et on aura l'occasion d'en reparler, mais si vous avez envie de faire un petit bout de chemin avec nous, n'hésitez pas, contactez-nous, evreux@amnestyfrance.fr, et on est tout à fait prêt à discuter avec vous pour que vous rejoigniez le groupe pour participer aussi à des actions avec nous, et surtout faites les actions dont on vous parle à la radio. Voilà, ne pas hésiter. Alors, pour commencer l'émission, donc ce climat des droits humains, bah, ça m'a donné l'envie. Alors, j'ai trouvé un tout petit clip qui n'est pas un clip, enfin le son d'un petit clip qui n'est pas.
Oui, parce que les gens ils voient pas l'image
non,
à la
c'est
radio,
ça,
hein,
c'est ça.
Qu'on s'en rappelle.
Mais le son est très facile à comprendre. Ce n'est pas Amnesty qui l'a fait, mais c'est la Commission nationale pour la défense des droits humains qui s'appelle la CNCDH et qui explique effectivement son rôle. Et j'ai pensé que dans ce climat. Alors, je retrouve le truc, voilà. J'ai pensé que dans ce climat, effectivement, de remise en cause des droits humains, c'était utile de rappeler ce genre de choses. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après.
Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme ? En France, l'institution dont c'est le rôle est la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, si vous préférez. La CNCDH est totalement indépendante. Elle est composée de 64 membres très différents. On y trouve des associations, des juristes, des syndicats, des universitaires, des représentants des religions et bien d'autres. Elle est née juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, en matière de droits de l'homme, on avait quelques besoins. C'est ainsi que son premier président, René Cassin, participe pour la France à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est vrai, les sujets ne manquent pas. En France, il y a 4 millions de personnes mal logées. 80% des enfants vivant en bidonville et en squat ne sont pas scolarisés. 80% des femmes handicapées ont été victimes de violences. On compte plus de 100 000 victimes d'esclavage moderne. Et dans les prisons surpeuplées, les détenus vivent dans des conditions inhumaines. La CNCDH contrôle le respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Par exemple, elle alerte sur les manquements au droit au logement et dénonce les failles des politiques publiques auprès des Nations Unies. Elle ne se contente pas de dénoncer. Elle dialogue avec les pouvoirs publics et tous les acteurs concernés. Elle formule des recommandations pour que ces droits soient assurés. Elle contrôle la mise en œuvre de ces recommandations et de celles portées par les Nations Unies. Bref, elle accompagne tous les acteurs, les pouvoirs publics, les entreprises, les associations, pour que les choses changent en profondeur. Enfin, la CNCDH se bat pour que chacun prenne conscience qu'il peut agir pour améliorer le respect des droits de l'homme autour de lui. La CNCDH, 70 ans d'expertise au service des droits de l'homme. Les droits de l'homme, l'affaire de chacun, l'affaire de tous.
Voilà, je pense que c'était effectivement des choses importantes à rappeler. Et donc, sans transition, on va passer à un autre sujet. C'est Edith qui vous en qui va vous en parler, mais elle va vous en parler. Elle va vous donner le sujet elle-même.
Bah, c'est absolument avec transition ou sans transition, comme on veut, parce que c'est absolument dans ce que tu viens de dire. Déjà en premier, le pays, la France, la problématique des droits humains et la problématique aussi des droits humains qui passent par la loi. Donc je pense que c'est la dernière radio ou l'avant-dernière, je ne sais plus.
La dernière.
Je vous avais parlé de ce risque d'avoir une loi par rapport aux Jeux Olympiques qui allait forcer la vidéosurveillance algorithmique. Eh bien, à mon grand désespoir, le jeudi 23 mars, l'Assemblée nationale a adopté, avec 59 voix pour, majorité présidentielle, Républicains et Rassemblement national, l'article 7 du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui légalise à des fins d'expérimentation la vidéosurveillance automatisée jusqu'à la fin de l'année 2024. Alors, au grand désespoir des associations de défense des libertés individuelles, Amnesty et d'autres, qui dénoncent une atteinte au droit à la vie privée et à la liberté. Pour ceux qui n'avaient pas écouté la dernière émission, un tout petit rappel. La surveillance automatisée ou algorithmique, c'est un logiciel chargé d'analyser les images de surveillance fournies par des caméras fixes ou par des drones. Cette intelligence artificielle envoie une alerte à la police dès qu'elle détecte un comportement ou une situation qu'elle a été entraînée à identifier comme suspect. C'est l'État ou des entreprises privées qui fournissent ces logiciels qui déterminent ce qui doit être considéré comme tel. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'aucune étude n'a jamais prouvé son efficacité pour lutter contre la criminalité. Alors le gouvernement justifie la mise en place de ce dispositif pour la nécessité d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques de 2024, qui doivent accueillir environ 13 millions de spectateurs. Mais les associations de défense des libertés individuelles redoutent cependant, comment dire, un cheval de Troie, prélude à une installation plus durable de la vidéosurveillance.
C'est à titre expérimental, ils t'ont dit, donc
automatisé
après, ils vont passer,
dans l'espace public. Alors, ouais. Noémie Leva, de la Quadrature du Cercle, rappelle qu'on a vu des boîtes noires qui permettent aux services de renseignement d'analyser automatiquement les métadonnées des communications Internet ou l'état d'urgence qui devait être
c'est ça.
À titre ponctuel, on va dire.
C'est ça.
Ces dispositifs supposés temporaires sont maintenant pérennisés. Alors, on peut aussi rajouter que, effectivement, là, c'est la faute à pas de chance, parce que les grandes méga-événements sportifs, il y a deux chercheurs, Jules Boykoff et Myrtille Picot, qui ont dit que ça jouait souvent le rôle de catalyseur sécuritaire. Donc, quelques exemples. Les Jeux de Londres en 2012, qui a entraîné la généralisation dans les rues de la capitale de la vidéosurveillance. la Coupe du monde de foot en 2018 en Russie, qui a conduit au déploiement de la reconnaissance faciale dans l'ensemble du pays. Donc franchement, la France, qu'est-ce qu'elle a été faire dans cette galère, hein, on pourrait se demander, hein. Alors selon Amnesty, bien entendu, la légalisation de ce dispositif pourrait inaugurer un avenir dystopique.
C'est quoi le sens de dystopique ?
Eh bien carrément, pareil, ça me rassure Didier parce que je me suis dit, c'est un mot qu'on entend pas mal, mais moi je suis pas trop sûre. Alors, je vous fais une leçon de vocabulaire, c'est le contraire d'un avenir utopique. Donc utopique, c'est quelque chose où on pense un avenir qui va aller de mieux en mieux, qui va être profitable pour tout le monde. L'avenir dystopique, c'est qu'il va devenir difficile, voire très dur, et qu'il va être vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas pour les générations futures. Voilà ce que ça veut dire. Donc Amnesty est quand même vraiment très inquiet. Et j'ai trouvé aussi un article, la même version par rapport à Amnesty Belgique, et la Belgique, elle a mis un point focus sur l'Europe. Et je trouve que c'est important aussi, donc je vous donne quelques petits morceaux de cet article. La décision de la France d'autoriser le recours à des mesures de surveillance de masse pendant les Jeux Olympiques nuit au travail de l'Union européenne en vue de réglementer l'intelligence artificielle. Je vous en avais parlé, ce qui se fait actuellement. Cette décision qui légalise pour la première fois le recours à la surveillance assistée par l'intelligence artificielle en France risque d'instaurer de manière permanente une surveillance d'État dystopique. Donc la Belgique aussi est dystopique, en France, et de permettre des violations à grande échelle des droits humains dans le reste de l'Europe.
Merci. Et puis, on l'a déjà dit, mais il faut toujours le répéter, ce genre de loi qui est votée là, sur cette surveillance, effectivement, numérique, si des partis beaucoup moins soucieux du respect des droits fondamentaux arrivaient un jour au pouvoir en France, Rassemblement National, pour ne pas le nommer, bien évidemment.
D'extrême, à partie extrémiste.
Bien évidemment que ce serait du pain béni pour eux, parce qu'ils pourraient généraliser cette surveillance et effectivement s'en servir pour faire de la répression, y compris par rapport à des opposants politiques qui ne remettent absolument pas en cause les droits fondamentaux, enfin, etc., etc. Donc voilà, répression politique à la clé.
Alors, juste aussi une petite phrase qui m'a bien fait sourire. Toujours venant de nos amis Amnesty Belgique, alors que la France se présente en championne des droits humains, partout dans le monde, sa décision d'autoriser la surveillance de masse assistée par l'intelligence artificielle pendant les Jeux Olympiques entraîne une offensive généralisée contre le droit à la vie privée, le droit de manifester et le droit à la liberté. Donc c'est vrai qu'il faut aussi un tout petit peu se sentir pas bien, mais aussi pouvoir le dire. Voilà.
Si on résume, ça craint.
C'est ça.
Ça craint énormément et c'est passé en loose day, je vais dire ça, carrément, entre la retraite, entre les événements, entre l'Ukraine. Et ça aussi, quand Didier parlait de s'informer, de vérifier et voir, parce que là, qui parle de cette surveillance, à part nous et peut-être quelques médias?
Oui, tout à fait. Et en parlant de liberté, je crois qu'on va beaucoup vous parler ce soir du droit de manifester. C'est Claire Lys qui doit vous en parler.
Alors, j'essaye d'arriver à tout vous dire, parce qu'on va encore me dire, il y a la pause musicale,
tout dire en peu de temps.
Je vais le faire en plusieurs fois, et puis il faut vous dire aussi que par rapport au droit de manifester, on est remonté à bloc parce qu'on a tous les trois participé à une formation Amnesty ce week-end, justement sur ce thème, qui était très illustré par les événements récents en France et les événements de samedi.
Donc, si dans le public, dans les auditeurs, on va dire plutôt, des gens sont intéressés par ça, eh bien, rejoignez-vous parce que nous avons vraiment aussi des moyens de pouvoir le partager aux autres.
Alors, je vais revenir d'abord, et puis Edith va m'aider pour que ce soit un petit peu plus
ludique.
Vivant. Ludique, peut-être pas, mais vivant. Je vais d'abord vous parler des manifestations en France. Depuis janvier 2023, donc des manifestations ont lieu partout en France, dans le cadre du mouvement social d'opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement. Nous alertons sur le recours excessif à la force et aux arrestations abusives signalées dans plusieurs médias. Alors, d'abord, l'utilisation abusive des matraques. Après la mobilisation du 19 janvier, un manifestant a dû être amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque à l'entrejambe. Pourtant, il ne présentait aucun danger. D'autres utilisations abusives des matraques ont été signalées.
Rappel d'usage des matraques. Elles ne doivent jamais être utilisées sur des personnes pacifiques, déjà maîtrisées ou en train de se disperser.
Ensuite, utilisation abusive des gaz lacrymogènes. Plusieurs médias ont documenté le recours à des gaz lacrymogènes projetés directement sur des manifestants pacifiques pour disperser les manifestations sans systématiquement de possibilité de dispersion et dans des quantités importantes.
Rappel d'usage des gaz lacrymogènes. Ils ne doivent être utilisés que dans des situations de violence généralisée et que quand il y a la possibilité de se disperser. Les gaz lacrymogènes ne peuvent jamais être tirés directement vers les personnes.
L'utilisation abusive de grenades de désencerclement. Lors de la manifestation du 11 mars, une lycéenne de 15 ans aurait été grièvement blessée au visage après avoir été touchée par une grenade de désencerclement, selon Mediapart.
Notre position, donc là on parle, c'est la position d'Amnesty, ça, sur les grenades de désencerclement. Au vu de la dangerosité de ces armes dont les projectiles frappent de façon aléatoire les personnes, nous demandons aux autorités françaises l'interdiction de l'utilisation des grenades de désencerclement.
Les arrestations abusives. Le 16 mars, 292 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue durant la manifestation Place de la Concorde à Paris. 283 d'entre elles sont ressorties libres. Les arrestations et gardes à vue abusives sont des atteintes sérieuses au droit de manifester.
Depuis plusieurs années, nous documentons l'utilisation des lois trop vagues ou contraires au droit international pour arrêter, parfois poursuivre des manifestants pacifiques. Les autorités françaises doivent fournir un cadre législatif protecteur du droit de manifester.
Alors que de nouvelles manifestations sont attendues dans toute la France, nous rappelons que les autorités françaises doivent veiller à ce que le droit de manifester soit respecté et garanti et doivent assurer la sécurité des manifestants en évitant de recourir à une force excessive. Et je vais vous parler ensuite, c'est un article qui est paru dans le Nouvel Observateur, et là c'est la Ligue des droits de l'homme qui met en cause les forces de l'ordre, et ça s'est passé samedi, bien sûr vous en avez entendu parler, à Sainte-Soline. Donc la Ligue des droits de l'homme a mis en cause dimanche la responsabilité des forces de l'ordre dans les violences de samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où une manifestation contre des retenues d'eau a donné lieu à des affrontements. Alors, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain, écrit la Ligue des droits de l'homme, qui avait mandaté sur place 22 observateurs des libertés publiques et pratiques policières. À l'appel du collectif Bassine Non Merci, du syndicat Confédération Paysanne et du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, des milliers de personnes, 6 000 selon les autorités, 30 000 selon les organisateurs, ont manifesté samedi autour d'un réservoir d'eau en construction pour l'irrigation agricole, contesté parmi d'autres dans la région. Le rassemblement avait été interdit par la préfecture et les autorités avaient mobilisé 3200 policiers et gendarmes autour du chantier en raison de la présence dans le cortège, selon elle, d'un millier d'activistes radicaux. De violents affrontements ont éclaté rapidement aux abords du site, dont autorités et organisateurs se rejettent la responsabilité depuis samedi. Alors, il y a eu des tirs massifs et indiscriminés de gaz lacrymogènes. Selon la gendarmerie, des assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de chandelles romaines et de cocktails Molotov de forte contenance, parmi d'autres projectiles. Les organisateurs dénoncent de leur côté la répression massive de la foule. Selon la Ligue des droits de l'homme, les cortèges ont fait l'objet de tirs massifs et indiscriminés de gaz lacrymogènes dès leur arrivée devant le site. Par la suite, les gendarmes leur ont tiré dessus avec des grenades lacrymogènes assourdissantes et explosifs de type GM2L et GENL, ainsi que des LBD-40, ajoute-t-elle, dans une première synthèse des observations faites samedi. Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée. et des détonations étaient régulièrement suivies de cris d'appel au secours, affirme la Ligue des droits de l'homme, qui estime que le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur le site. Elle dénonce aussi des tirs de grenades lacrymogènes en direction d'élus qui protégeaient des blessés et plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, dont un dans une zone totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes. La secrétaire nationale de LV, Marine Tondelier, et les organisateurs ont dénoncé des faits similaires. Selon les autorités, lors de l'opération d'évacuation des blessés, les gendarmes ont été attaqués par des individus armés d'engins incendiaires, alors que les heurts avaient cessé. Ils ont dû répondre pour écarter cette menace. Ces faits ont retardé l'intervention des secours, mais à aucun moment les élus n'ont été identifiés dans cette zone, dit la gendarmerie. Les gendarmes ont fait face à des individus extrêmement violents. Dans ce contexte, ils ont fait un usage proportionné de la force en utilisant massivement du gaz lacrymogène, avait affirmé la gendarmerie samedi. Et pour préserver leur intégrité, les militaires ont dû également avoir recours à des grenades de désencerclement. Et dans les moments de grande tension, ils ont été amenés à utiliser le LBD, avait-elle ajouté. Ce qu'il faut dire, parce que ça, nous en formation, on a revu, une manifestation ne peut pas être totalement... Enfin, le droit de manifester ne peut pas être interdit. C'est un rassemblement dans un lieu précis qui peut être interdit à cause éventuellement de danger, mais les manifestants peuvent quand même y aller. Et il y a eu plusieurs cortèges dans cette manifestation, dont un cortège totalement pacifique de gens écolos qui étaient là vraiment pacifiquement. Et la Ligue des droits de l'homme a bien observé que les réponses qui ont été apportées, elles ont été apportées sur l'ensemble des manifestants, y compris sur les manifestants pacifiques.
Oui, tout à fait. La façon de cette répression pose effectivement beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Et pour compléter ce que tu viens de dire, moi j'en avais parlé à la formation effectivement ce week-end, mais il faut aussi se rappeler des propos qui sont des propos absolument inexacts et pour ne pas dire autre chose, du ministre de l'Intérieur qui avait dit avant la manifestation, quelques jours avant, que les gens qui participaient à des manifestations non autorisées, voilà, étaient des délinquants. Alors ça, en droit international, c'est absolument faux. Monsieur Darmanin ment. Voilà, le droit international...
Peut-être il connaît pas le droit international.
...protège le droit de manifester et une manifestation n'a jamais à être autorisée, ni même déclarée, de toute façon, si elle est organisée de façon extrêmement...
Qu'elle soit pacifique.
Extrêmement prompte suite aux événements que l'on veut dénoncer. Donc, M. Darmanin, non, les manifestants dans un rassemblement ne sont jamais des délinquants, effectivement. Et ça, c'est un abus d'autorité très grave. Bon, on va rester là pour l'instant.
On va faire une petite pause musicale.
Et on se retrouve juste après.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur les nids, sur le jeûner,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
j'écris ton nom.
Sur tous mes chiffons d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des ombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des montes,
sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sade.
J'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint.
Sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout où j'ai accordé,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulés,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir sans souvenir,
j'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître.
Liberté,
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 liberté.
Liberté,
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 liberté.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'écouter une chanson qui est sur le poème d'Éluard Liberté, qui a été faite par un tas de musiciens et d'artistes différents, et la chanson avait été composée au départ pour les Restos du Cœur. Voilà, pour ne rien vous cacher. Donc, retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. On va continuer à vous parler des atteintes aux droits de manifester.
Je continue, parce que comme Claire-Lise, elle vient de commencer sur ça, et moi, en cherchant, voyant un petit peu les articles qui sont parus dernièrement sur Amnesty, j'ai trouvé le Mozambique. Bon, ok, c'est un peu loin de la France quand même, mais là aussi, il y a une problématique du droit de manifester. Alors, ce qui s'est passé au Mozambique, c'est que le 9 mars dernier est mort Azagaya, un chanteur rap qui est une icône des jeunes au Mozambique. Et en plus, c'est un chanteur qui dénonçait l'injustice, notamment les mauvais traitements infligés à la population, la pauvreté et l'injustice sociale, et encourager les citoyens et les citoyennes à demander des comptes aux autorités de l'État. Donc, la jeunesse du Mozambique était carrément retournée et a demandé à avoir des manifestations. Donc, là, Didier, c'était des manifestations pacifiques et qui étaient autorisées dans 5 provinces du pays, dans celle de Maputo, afin de rendre hommage à l'artiste décédé. Eh bien, les autorités n'ont pas accepté ces manifestations. Et comme l'a pu le voir Amnesty sur les vidéos, la police a agi avec brutalité et de manière illégale envers les manifestants et les manifestantes dans des lieux tels que Maputo dans la matinée du 18 mars. Et que 7 manifestants et manifestantes ont été arrêtés et détenus. Et il semblerait que la police ait les noms d'autres et les menaces en raison de leur manifestation, leur participation à ces manifestations. Donc là aussi, le droit de manifester est bafoué. Et après avoir donné un accord, il semblerait aussi que le Mozambique, ou au moins les autorités étatiques du Mozambique, ont peur qu'il y ait un mouvement au niveau des jeunes et que ça soit relayé dans les réseaux sociaux et qu'il y ait une dénonciation de leurs mesures politiques actuelles. Voilà, Claire-Lise, une autre à défendre.
Je continue, c'est ça?
Oui, c'est à toi.
Je vais vous parler un petit peu de plus, un petit peu en général. Je vais pas revenir sur les faits des dernières semaines, mais effectivement, en France, les violences policières sont une réalité. Depuis des années, Amnesty alerte sur les réponses disproportionnées des forces de l'ordre lors de leurs interventions dans les manifestations. Et les victimes de ces violences rencontrent des difficultés d'accès à la justice. En France, les lanceurs de balles de défense, des LBD, des grenades classées armes de guerre, sont utilisés contre des manifestants pacifiques. Pendant les manifestations, de nombreuses personnes sont arrêtées arbitrairement et placées en garde à vue. Dans leurs cellules, elles subissent des humiliations et nous refusons de nous habituer à ces violences physiques et morales. Alors, c'est le témoignage de Lara, la mère d'un jeune manifestant interpellé à Paris le 12 décembre 2020. Il s'est fait bousculer et projeter contre le trottoir par les forces de l'ordre. Il l'a dit, tout va bien. Et là, il s'est pris des coups de matraque et il n'a rien compris. Manifester, c'est un droit menacé. Aujourd'hui, le droit de manifester est menacé. Et face à l'urgence, notre organisation a décidé de lancer une campagne mondiale pour défendre le droit de manifester partout dans le monde. Dans ce dossier, donc, vous découvrirez des exemples précis de ces dérives des forces de l'ordre en France et vous découvrirez aussi toutes nos enquêtes sur le sujet, de nombreux témoignages et nos recommandations pour un maintien de l'ordre plus respectueux des droits humains. Et c'est par rapport à cette campagne mondiale que ce week-end, nous nous sommes retrouvés pour faire une formation sur le droit de manifester. Donc, on était 6 militants du groupe d'Evreux et 3 militants du groupe de Louviers, plus la formatrice de Louviers. Et c'est vrai que c'était un week-end passionnant et vraiment très intéressant.
Ça nous permet d'avoir aussi ces données juridiques que l'on ne connaît pas forcément, ce que Didier disait sur ce que dit la loi réellement et pas ce qu'on nous donne comme info.
Pas ce qu'on entend comme mensonge.
Alors, voilà. Au lieu d'adopter des lois pouvant servir à dissimuler des violences policières, des réformes structurelles doivent être engagées pour y mettre fin. Bon, là, on va avoir du mal avec les réformes structurelles pour l'instant parce que...
C'est à moyen terme.
Voilà. Donc, il y a eu un communiqué de presse qui date un petit peu du 18 août 2022, mais qui avait été lancé par Amnesty sur la campagne Manifestez-vous. Derrière chaque droit et liberté, il y a un combat. Parce que de nombreuses victoires sociales et sociétales se sont remportées dans la rue, grâce à des années de mobilisation et parce que d'autres combats restent à mener, Amnesty International, en partenariat avec l'agence de communication DDB, lance une campagne d'affichage pour rendre hommage à ce droit fondamental, celui de pouvoir manifester pacifiquement et librement. Et pour rappeler l'importance de le défendre, à partir du 8 août dernier, avait été déployé dans les principales villes de France une série de 6 visuels mettant en avant des droits acquis grâce à la force du rassemblement. S'exprimer librement, aller voter, partir en vacances, se marier avec qui l'on veut, choisir ou pas d'avoir des enfants, ces possibilités de choix, ces libertés, ces droits, nous les devons à celles et ceux qui ont eu le courage de faire entendre leur voix, à ceux qui ont œuvré pour que la vie d'aujourd'hui soit plus juste et égalitaire que celle d'hier. Ce sont nos grands-pères, nos parents, nos voisins, camarades, collègues, amis. Les manifestations sont un puissant levier de changement et de défense des droits humains. Or, aujourd'hui, de nombreux États dans le monde répriment ce droit, souvent avec violence, et stigmatisent ceux et celles qui l'exercent. Préoccupés par cette menace croissante et sans précédent, et face à l'urgence de la situation, Amnesty International a lancé, donc, en juillet 2022, une campagne mondiale en publiant un état des lieux inquiétant de l'accès au droit de manifester dans le monde. En France, dès la rentrée, dans la foulée de la campagne d'affichage Print, une communication a été faite auprès des députés. Et pour suivre les actualités liées à la campagne Manifestez-vous, et avoir un accès aux rapports et aux actions de mobilisation, rendez-vous sur le site www.amnesty.fr/actualité/droit-de-manifester-menace. Pour toute demande média, merci de contacter le service presse d'Amnesty. Alors, juste aussi redire que cette campagne droit de manifester, il y a Il y a eu 5 pays qui ont été choisis, dit 5 pays prioritaires, qui sont des pays où, en fait, ont été étudiés et épluchés à la, tout ce qui se passait par rapport au droit de manifester. Et nous avons eu l'étonnement de considérer que dans ces 5 pays, il y a bien sûr des pays dont on parle souvent, où il se passe des choses terribles, comme la Chine, la Russie, la Colombie.
La Colombie et le Sénégal.
Sénégal. Mais il y a aussi la France qui a été choisie, puisque la France, par rapport à son histoire, effectivement, la France, pays des droits de l'homme, la France dont est partie la déclaration des droits de l'homme en 1789, puis en 1792. Et puis, aussi, on le rappelait tout à l'heure, qui a servi aussi à la reconstruction après de l'actuelle déclaration des droits de l'homme en 1948. Voilà. Donc, France, il y a eu toutes les avancées sociales, etc. Et puis, on observe, depuis une dizaine d'années, depuis aussi les Gilets jaunes, quand même, une répression accrue de la police envers les manifestants et un désir au niveau du gouvernement de museler un petit peu
certains droits,
il y a une régression des droits d'expression et de liberté comme partout dans le monde, mais de façon quand même très manifeste en France, et en plus c'est un pays occidental, et c'est vraiment
c'est aussi un pays où l'histoire s'est faite par des mouvements de personnes, c'est-à-dire ça n'a pas été forcément que des choses qui sont faites au niveau des lois, hein, donc il y a un côté positif parce que c'est un endroit où les gens s'expriment, et un côté négatif où là on sent que l'expression est de plus en plus compliquée et de plus en plus muselé.
Oui, tout à fait. Il a été rappelé dans cette formation à laquelle on a assisté qu'il y avait des choses qui étaient complètement aberrantes, comme par exemple les lois qui ont été passées, ça c'est très récent, alors j'ai plus les années en tête, mais enfin c'est vraiment ces dernières années, les lois qui ont été passées, comme par exemple celle qui permet aux forces de police de faire des mandats d'arrêt contre des gens qui auraient l'intention
de passer à la violence. C'est la dérive des lois sécuritaires. Après les attentats, ça a été c'est ce que disait Amnesty, pas même par rapport à vos surveillances intelligence artificielle qui nous fait croire que... et puis c'est aussi là un peu ce qui se passe dans plein d'activités, c'est que il faut mettre le maximum dans le panier, c'est-à-dire précaution maximum, sans se rendre compte réellement qu'est-ce que ça va pouvoir faire au niveau de la vie des citoyens.
Tout à fait. Et ça, en fait, pour revenir à ce que cette loi contre la présomption d'actes violents, en droit, la présomption, ça n'existe pas. Soit l'individu a commis un acte répréhensible et doit être arrêté et poursuivi pour ça, ou il ne l'a pas commis. Mais le fait de dire effectivement, vous avez l'intention de, comme vous êtes un groupement de 4 ou 5 ou 10 personnes ou 20 personnes, et vous avez l'intention d'être violent, c'est complètement contraire au droit international.
Toute manière, là, ce que racontait Claire Lise par rapport aux dernières manifestations, par rapport à l'opposition à la loi retraite, il y a eu aussi des avocats, des juristes qui ont manifesté devant les commissariats à Paris en disant, mais là, c'est... Et très souvent, on entend aussi des manifestants qui disent, nous, si on manifeste, on a aussi le nom d'un avocat dans la poche, parce qu'il faut ça maintenant pour se sortir des gardes à vue ou au moins des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même, c'est pas très, très intéressant, pas très sympathique, et ça fait quand même, ça soucie, on va dire, un minimum.
C'est clair, et le but, en fait, s'il n'est pas dit, c'est de dissuader les gens, en fait, d'aller manifester, en multipliant les répressions et les handicaps par rapport aux gens qui s'approchent.
Comme disait Claire Lise, aussi le buzz au niveau des infos, oh là là, ça va castagner, oh là là, on met plein de monde. Bon, voilà, le oh là là, il existe, malheureusement, ces bandes de personnes qui cherchent autre chose que de donner une parole, mais le mettre en avant tout le temps, c'est aussi empêcher d'autres personnes de venir qui vont s'estimer en danger ou en insécurité.
Oui, et en plus, bon, effectivement, les dérives violentes qui se produisent dans les manifestations n'ont plus rien à voir dans ces cas-là par rapport au droit de manifester, qui est une, le droit de manifester repose sur
un
rassemblement pacifique, enfin, etc., etc. Bien évidemment que si ça dégénère en violence, là, on tombe dans le délit. Mais ça ne doit pas du tout, effectivement, être un obstacle. Ce prétexte ne doit pas être un obstacle pour empêcher les gens de manifester. Et la meilleure des preuves, c'est toutes les manifestations là en ce moment qui ont lieu jusqu'à présent sur la réforme des retraites. La plus grande partie d'entre elles, et voire toutes récemment, se sont passées dans le plus grand calme. Donc il n'y a pas du tout d'automatisme, contrairement à ce que là aussi on cherche à nous faire croire, d'automatisme, parce que manifestation égale casseur, black bloc ou je ne sais pas qui, enfin, etc., etc. Quand ça arrive, là, les forces de police sont tout à fait habilitées à réprimer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais elles ne sont pas du tout habilitées à réprimer des manifestants pacifiques. Et c'est ce qui se passe de façon systématique maintenant.
Alors, il y a eu aussi des écarts. Alors, j'ai peur d'écorcher le nom, mais il y a une brigade spéciale qui a été créée sur,
oui,
notamment sur Paris.
C'est brigade motorisée,
c'est une brigade qui a été créée justement pour essayer d'empêcher les casseurs de venir et tout. Sauf qu'ils interviennent de façon extrêmement violente. Non, ils ne discernent pas si ce sont effectivement de vrais casseurs ou pas. Et ils font de gros dégâts. Et effectivement, ils sont extrêmement violents. Et maintenant, les jeunes, ils filment avec leur portable. Mmh. Et il y a eu beaucoup de petites vidéos qui ont été filmées sur les propos racistes, les propos xénophobes et des propos aussi humiliants,
injurieux.
Qui ont été, et injurieux envers les manifestants, des propos qui doivent pas être dans la bouche des
forces de l'ordre. Il y a une enquête qui est en cours,
Il y a une enquête qui est en cours parce qu'il y a quand même des choses qui sont absolument intolérables.
Mais de toute manière, qu'il y ait des brigades d'intervention rapides pour aller à certains endroits, pourquoi pas, vu la configuration de manifestation, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas ces moyens, c'est ce qu'Amnesty a toujours dénoncé, ces munitions létales, enfin, ces façons de réprimer les gens qui risquent alors de faire Rouen, une personne qui a un pouce arraché, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Ou parce que ce que la police a est dangereux, non, puisque ça peut donner la mort, ou parce que la façon de les envoyer est dangereuse, parce que c'est trop près des manifestants, comme tu viens de nous le dire, à Sainte-Soline, quoi, avec...
Bon, la pendule tourne comme à chaque fois, on va être obligé,
oui,
effectivement, on va faire une petite pause
petite
musicale.
Petite ouverture de fenêtre pour le printemps.
Un petit coup de sifflet, rien que pour Edith.
Voilà, c'est fait.
Et juste pour conclure, on va vous renvoyer effectivement sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, vous avez pas mal de rapports.
C'est même pas une conclusion, c'est plus d'infos.
Il y a plein de rapports qui sont déjà parus sur la question et qui expliquent très bien ces choses, et on vous en reparlera. Et puis il y a aussi un film à voir qui est sur la chaîne YouTube d'Amnesty, qui s'appelle Présumé coupable, qui a été fait par Amnesty France. Et qui montre bien effectivement ce que c'est que des répressions. Là, c'était par rapport aux manifestations des Gilets jaunes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. On se retrouve juste après la musique.
Chez moi, pas d'étranger. Chez moi, on sait comment s'aider. Chez moi, on sait comment s'aimer. Chez moi, on sait comment rêver. Dans les joies comme face au danger, toujours quelque chose à manger, toujours quelqu'un pour me parler, quand j'ai le cœur un peu blessé. Et si tu savais comme j'ai pu prier, le ciel priait qu'il m'entende, j'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre, à l'abri sous mon étoile, il fera jour demain, pour la famille et les miens. C'est ma vie, mon histoire. À coup de rêve et d'espoir. Comme il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour y croire. Jamais, jamais trop tard. Oh, oh, jamais, jamais trop tard. Hey,
Je m'en parle fort pour se donner du courage. C'est pas le mauvais sort, mais du soleil sur mon visage. J'ai moi les chercheurs d'or, ont tous la tête dans les nuages. Chanter, danser dehors, tu vois, c'est mon seul héritage. Et si tu savais comme j'ai pu prier, le ciel brillait qu'il m'entende. J'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre. À l'abri sous mon étoile, il fera jour demain pour la famille et les miens. C'est ma vie. J'ai pu prier, le ciel priait qu'il m'entende. J'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre. À l'abri sous mon étoile.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, bon, on a un petit peu écourté la musique parce que sinon on va manquer de temps. C'était un chanteur qui s'appelle Le Girac et la chanson s'appelait Jamais trop tard. Voilà.
C'est à moi.
C'est à Edith qui va vous parler d'eux, mais elle vous le dira elle-même.
Bon voilà, moi je fais un petit tour. Vous savez que j'aime bien parler des pays qui ne font pas l'actualité. Et donc j'ai trois nouvelles, ou deux, je ne sais plus. Enfin, vous allez voir. Pour des pays dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, si, le premier, tiens, c'est, dont on parle assez souvent, c'est la Russie. Eh bien, savez-vous ce qui se passe en Russie? Là, c'est pareil, les droits humains, c'est pas le top.
C'est le scoop du jour.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Eh bien, les Russes, quand ils ont dissous des associations ONG, donc la dernière dont on avait parlé, c'était en décembre 2021, fermeture de Mémorial, donc je pense qu'il y a quand même aussi le nom de cette association un petit peu dans l'actualité. Sous couvert, bien entendu, de cette fameuse loi répressive des agents de l'étranger. Donc, tout argent qui venait de l'étranger et Mémorial en recevait devenait complètement interdit. Donc, Mémorial fermé. Et ben là, dernièrement, les Russes, en l'application des lois de la Russie, ont perquisitionné le domicile des membres de Mémorial parce qu'il y en a qui restent en Russie. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont arrivés, donc, en mars, là, les forces de sécurité, le domicile de 9 membres de Mémorial, notamment le président, aussi le siège de l'organisation à Moscou, la même chose à Perm dans l'Oural. Ils ont aussi effectué un raid au centre de la mémoire historique, parce que Mémorial aussi, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui recueillait et qui recueille, j'espère encore, tout ce qui s'est passé la gestion de Joseph Staline. Donc, c'est aussi recueillir des informations sur le passé, sur les exactions de la Russie à ce moment-là, la répression, et aussi pouvoir faire ce passage à éduquer la Russie, la jeunesse russe, et commémorer l'histoire de la répression politique. Donc, ce que Amnesty note, c'est que ce qui est important, c'est que ça puisse continuer. Mais il y a aussi tout de suite les autorités russes qui continuent leur chasse aux sorcières, visant les défenseurs, les rares défenseurs des droits humains qui existent et qui sont courageux en Russie. Elle considère que le travail de Mémorial, qui inclut la protection des droits humains en Russie, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec réhabiliter le nazisme. Alors pour qui, pourquoi, je vous laisserai aller voir les articles, mais enfin donc savoir que c'est compliqué, même être militant sans association en Russie. Alors une autre info, la Thaïlande. Il y a beaucoup de ressortissants du Myanmar qui sont en Thaïlande depuis déjà depuis le coup d'État il y a déjà quelques années au Myanmar, ben, la Thaïlande, tout de suite, elle est en train d'essayer de leur faire peur, de les expulser. Et on sait que s'ils rentrent en Thaïlande, eh ben, leur vie ou leur liberté est très dangereusement mise en... Aidez-moi, j'ai mal par quoi démarrer ma phrase. Ils risquent, voilà, merci, je suis partie dans l'autre sens.
Et donc, s'ils retournent en Thaïlande, c'est s'ils repartent au Myanmar.
Voilà, s'ils sont renvoyés de Thaïlande. Et il semblerait que la Thaïlande a des listes qui viennent peut-être du Myanmar pour des gens qui seraient recherchés. Donc, effectivement, Amnesty leur demande à la Thaïlande d'arrêter et de laisser ces personnes qui sont des réfugiés à raison et de les laisser en liberté et sans les menacer. Donc ça, c'est pareil, ça date du mois de mars, hein, c'est pas une bonne nouvelle. Et la dernière, donc pareil, là c'est les lois, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, on en avait déjà parlé. Eh bien, il y a une nouvelle loi qui érige en infraction les relations sexuelles consenties entre adultes du même sexe. Et ça, c'est une loi qu'en plus qui a des formulations ambiguës, qui criminalise même ceux qui font la promotion de l'homosexualité ou qui tenteraient de commettre le délit d'homosexualité. Et il y a beaucoup de problématiques par rapport à ces lois, parce qu'il va y avoir des mouvements homophobes encore plus. Il y en avait déjà en Ouganda, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà, petite brève, très rapide.
Eh bien, après une mauvaise nouvelle, je crois qu'il y avait Claire Lys qui avait une bonne nouvelle.
Eh bien, oui, on en a besoin.
Alors, un journaliste yéménite, Younis Abdel Salam, a été libéré, donc le 7 décembre dernier, par les rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord Yémen. Donc, le jeune homme de 28 ans était détenu par les Houthis depuis le 4 août 2021 au centre de détention des services de sécurité et de renseignement de Sanaa, sans accusation ni procès. Il n'y a aucune justification légale à l'emprisonnement de Younis. Sa seule faute est d'avoir une opinion, expliquait Sama Saïb, son avocate, qui n'a pas été autorisée à le rencontrer. À la suite de son arrestation, Younis Abdel Salam a été porté disparu pendant plusieurs semaines, détenu à l'isolement et au secret, et s'est vu refuser l'accès à ses droits, à ses soins médicaux. Dans un message, son frère a remercié Amnesty International de s'être mobilisé en faveur de la libération de Younis Abdel Salam. Voilà. Donc, quand on se mobilise, quand on écrit, quand on fait pression sur les gouvernements, on obtient des libérations de personnes détenues de façon illicite.
Voilà. Et justement, quand on dit on fait pression, bah moi, je vais vous faire un petit appel. Edith, on avait déjà parlé à la dernière émission. Il y avait une pétition à signer, mais maintenant, c'est pour la même personne. Il y a maintenant une action, ce qu'on appelle une action urgente à faire, donc un courrier à envoyer de façon très rapide aux autorités. Et c'est une avocate qui habite en Andorre, de cette principauté coincée entre la France et l'Espagne, et qui s'appelle Vanessa Mendoza Cortés. Et elle est poursuivie, elle est toujours, certains chefs d'inculpation ont été levés, mais elle est quand même toujours poursuivie pour réclamer le droit à l'avortement, puisque l'Andorre, la principauté d'Andorre, est le pays d'Europe qui a la législation la plus répressive par rapport au droit à l'avortement. Il l'interdit dans tous les cas, y compris en cas de viol, de maladie, etc. etc. Donc cette avocate, Vanessa Mendoza Cortés, réclame que la législation change en Andorre et elle est poursuivie pour ça. Donc voilà, il y a une action urgente à faire. Bon, il y a tout un texte, mais on n'aura pas le temps, puis c'est pas le but aujourd'hui de vous le lire. Le mieux que vous ayez à faire, c'est d'aller sur le site amnesty.fr, vous tapez action urgente Andorre et vous tombez directement sur la page. C'est très simple, il y a un courrier qui est tout prêt, vous pouvez le modifier, mais il y a un courrier tout prêt avec l'adresse mail des autorités andorriennes, on dit, je sais pas, enfin d'Andorre, voilà.
Et donc,
encore une fois, on vous incite à le faire, parce que plus on sera nombreux à faire pression auprès de ces autorités, ben peut-être qu'on aura une bonne nouvelle dans une prochaine émission, comme celle.
C'est quand même assez terrible d'être obligé de faire ça. Voilà,
peut-être on peut envoyer le courrier aussi à M. Macron, qui est, tu m'as dit
co-dirigeant. Il a la moitié du pouvoir.
C'est une autorité morale en Andorre.
Voilà, il a quelque chose.
C'est une autorité morale, oui.
Voilà. Donc, alors oui, le chef de c'est quand même tout à fait remarquable, mais je m'arrêterai là. C'est le chef d'inculpation qui menace cette avocate, c'est pour diffamation contre les coprinces.
Voilà, il est prince d'Andorre, voilà.
Donc les autres ont été levés, mais il reste diffamation contre les coprinces. Quand on veut réclamer le droit à l'avortement en Andorre, on est qualifié d'avoir diffamé. C'est absolument hallucinant. Voilà. Et puis donc, actualité locale.
Locale.
Voilà, donc on a une actualité locale. Je recherche mon petit papier.
Ben, j'en profite pour dire merci aux gens qui sont venus le 18 mars. On n'était pas très nombreux.
Oui, oui,
sur la place de la mairie.
Solidaire pour le sitting contre le racisme et contre la xénophobie. Ça a été une jolie rencontre avec l'association Heure Solidaire.
Une association qui est toute nouvelle sur Évreux.
Et avec qui on aura d'autres échanges et d'autres partages d'événements.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a un article qui est paru dans la presse, d'ailleurs, locale, par rapport à ce rassemblement. Donc, nous, on est partenaires, c'est le jeudi 6 avril prochain. La semaine prochaine, jeudi 6 avril prochain, on est partenaire du Tangram pour un spectacle qui s'appelle Kaboul le 15 août 2021. Donc, je pense que le titre est suffisamment évocateur. On est partenaire, il y a une information sur le site du Tangram et on tiendra également une table de presse. Et juste pour résumer, alors, sur la présentation du spectacle, dans la nuit du 15 août 2021, Kaboul tombe aux mains des talibans. Artistes, journalistes, militants sont les premiers menacés et doivent quitter le pays en urgence. Face à cette tragédie humaine, les institutions et les lieux culturels français se mobilisent pour accueillir ces citoyens et ces citoyennes afghanes. Le territoire normand et ses acteurs culturels prennent part à cet élan de solidarité en offrant l'hospitalité à 11 artistes en exil. Donc voilà, ce sont ces 11 artistes qui ont monté ce spectacle, qui va prendre différentes formes effectivement, et qui est présenté le 6 avril au Théâtre d'Évreux. Et le communiqué se termine de la façon suivante. Au-delà de l'expérience humaine et artistique partagée, ce projet tente d'ouvrir les horizons à ces exilés afin de leur permettre l'intégration au territoire, une vie normale, du travail dans le milieu culturel et peut-être une réconciliation avec l'humanité. Voilà, donc j'ai trouvé que le communiqué était tout à fait intelligent. Nous, on est partenaires, donc n'hésitez pas à venir le jeudi 6 au théâtre pour nous retrouver. Voilà. Et après, on se retrouve pour notre prochaine émission sur les droits humains. J'avais noté la date, mais je ne l'ai plus. Si voilà, elle est ici. Notre prochaine émission sur les droits humains.
Alors, on change de mois, ça sera le mois d'avril. C'est ça. Donc, ça sera peut-être le deuxième mardi.
C'est le mardi 11 avril, en direct sur l'antenne de Principe Actif, et donc de 19h à 20h. Comme deux fois par mois sur l'antenne de cette radio.
Voilà. Alors, il nous reste juste à vous dire au revoir.
C'est ça.
Donc, et ne fermez pas les yeux sur les droits humains.
Tout à fait. Bonne soirée et à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.